Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
Mesdames et messieurs, aujourd'hui le vol Destination Afrique vous conduit dans le Sahara marocain. Un sujet important de la politique marocaine avec un enjeu stratégique au cœur des dynamiques régionales et internationales. Car depuis la récupération de ces territoires en 1975, au lendemain des accords de Madrid et de la Marche verte, le Royaume du Maroc a consolidé sa souveraineté dans son territoire. Cela se traduit par un investissement massif dans le développement économique et social de sa région. Aujourd'hui, cette question reste une pièce centrale du puzzle diplomatique maghrébin qui octroie une légitimité incontestable à la marocanité du Sahara. Et pour en savoir plus, cher ami, nous aurons comme guide aujourd'hui M. Nasser Hargi, qui est un spécialiste des relations internationales et de la diplomatie marocaine, un digne fils du Maroc, mais également un expert dans ce domaine. Bonjour à vous et merci de nous servir de guide aujourd'hui, M. Hargi.
Merci beaucoup, M. Tomkara, pour votre invitation et c'est un honneur d'être aujourd'hui avec vous. Je vous remercie pour l'invitation. Vous faites bien donc d'évoquer ce sujet aussi fondamental qu'est la souveraineté et l'intégrité territoriale du Maroc. Donc, comme vous le savez, le Sahara marocain n'est pas seulement une question politique ou diplomatique, c'est une réalité historique, juridique et économique incontestable pour le Royaume du Maroc. Et le Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, a non seulement consolidé son droit légitime sur cette région, mais a aussi fait du Sahara un modèle de développement et de prospérité. Et je suis ravi de pouvoir partager avec vous les arguments factuels qui démontrent pourquoi la marocanité du Sahara est une évidence.
Vous avez donc écrit une œuvre dans cette dynamique, Monsieur Hargi. D'ailleurs, votre œuvre sur le Sahara marocain est reconnue comme un travail de fond, exceptionnel bien sûr. Quelles motivations profondes vous ont animé dans cette entreprise et quel élément confère à votre démarche une singularité aussi marquante ?
Merci beaucoup pour cette question. Donc, j'ai écrit ce livre, Le Sahara marocain, son histoire et moyens juridiques pour le défendre, avec une motivation profonde. C'est-à-dire offrir aux Marocains et à nos décideurs et à la communauté internationale une compréhension claire, factuelle et irréfutable de la souveraineté du Maroc sur son Sahara. Nous savons que la bataille autour du Sahara marocain ne se joue pas seulement sur le terrain diplomatique, mais aussi dans les esprits et dans l'opinion publique internationale. Et donc mon objectif était donc d'expliquer avec des faits historiques, juridiques et diplomatiques solides pourquoi le Sahara a toujours été marocain, et comment nous pouvons, en tant que nation, continuer à défendre cette vérité face aux manipulations et aux contre-vérités propagées par certaines parties, malheureusement. Donc ce livre se veut un outil stratégique, une référence pour tous, en tout cas pour tous ceux qui souhaitent comprendre et défendre la marocanité du Sahara avec les meilleurs arguments. Car aujourd'hui, plus que jamais, la reconnaissance internationale de notre souveraineté avance à grands pas, et il est essentiel que chacun puisse en parler avec clarté et conviction.
Avec clarté et conviction, l'histoire aujourd'hui également du Sahara marocain que nous allons donc aborder avec vous. Cette histoire donc du Sahara est souvent présentée comme sujette à des interprétations divergentes. Comment votre expertise permet-elle donc de remettre en perspective les faits et les appréhender dans leur véritable dimension historique ?
L'histoire du Sahara a été et encore malheureusement instrumentalisée à des fins politiques. Des narratifs fallacieux, souvent relayés par une certaine presse et des milieux militants, cherchent à occulter une réalité historique pourtant limpide. Et mon expertise consiste précisément à revenir à cette vérité historique brute en me fondant sur les sources les plus fiables et les plus vérifiables. Contrairement à ces lectures biaisées, l'histoire du Sahara révèle une évidence. C'est des liens légitimes d'allégeance séculaire et incontestable qui ont uni les tribus sahraouis au sultan du Maroc. Et les travaux de Michel Abitol, d'Ahmed Baba Miske sont éclairants, mais ils ne sont que la partie visible de l'iceberg. Et les fonds d'archives que j'ai explorés, aussi bien les archives nationales du Maroc, de France, mais d'autres aussi, donc regorgent de rapports et de consuls et d'administrateurs français en poste au Maroc et dans la région saharienne dès le 19e siècle. C'est des rapports qui sont formels et concordants. On prendra par exemple les dahirs du sultan Moulay Abdelrahman et Hassan Ier au XIXe siècle, le dahir du 23 juillet 1845, émanant du sultan Mohammed Abdelrahman, suite au traité de Tanger, Donc, avec la France, définit clairement les frontières sud du Maroc. Des frontières sud qui incluent le Sahara et réaffirment l'autorité du sultan sur ces territoires. Donc, plus tard aussi, on a les dahirs du sultan Hassan Ier aussi, à la fin du 19e siècle, qui sont encore plus explicites. On a le dahir du 26 mai 1886, par exemple, qui nomme le cheikh Ma'el Aïnine comme représentant du sultan dans la région du Sahara, lui conférant des pouvoirs étendus en matière administrative, judiciaire et religieuse. Et donc, ce dahir est conservé aux archives nationales du Maroc, est une preuve irréfutable de l'exercice de l'autorité marocaine sur le Sahara. De même, le dahir du 12 juillet 1895, toujours du sultan Hassan Ier, accorde des privilèges commerciaux à ses tribus sahraouis, fidèles au sultan, témoignant de cette relation de souveraineté et de protection. Donc ces dahirs, parmi tant d'autres, ne sont pas des interprétations, ce sont des actes juridiques émanant directement du sultan et s'appliquant incontestablement au Sahara.
Et par rapport également à cette dynamique, toujours aujourd'hui, vous abordez quand même cette question avec beaucoup de pertinence et aussi de clairvoyance dans cette optique. Aujourd'hui, la Cour internationale de justice a rendu un avis consultatif en 1975. Quelle est la portée juridique et politique de cet avis et comment le Royaume du Maroc doit-il l'utiliser stratégiquement à son avantage sur la scène internationale?
Je vous remercie pour cette question. Donc, écoutez, l'avis consultatif de la Cour internationale de justice du 16 octobre 1975, c'est un texte juridique majeur, trop souvent instrumentalisé ou déformé, malheureusement. Donc, il est crucial de rappeler d'abord ce que la CIJ, donc la Cour internationale de justice, a clairement affirmé. Elle a rejeté catégoriquement la thèse du terra nullius. C'est un point juridique important et fondamental, souvent minimisé ou ignoré par ceux qui cherchent à contester la position du Maroc. La Cour internationale de justice a clairement établi qu'avant la colonisation espagnole, le Sahara occidental n'était pas une terre sans maître. Elle a reconnu l'existence de liens juridiques entre le sultan du Maroc et les populations sahraouies. Il est essentiel de comprendre la nature et la portée de ces liens reconnus par la CIJ. Il s'agissait de liens d'allégeance, de loyauté, de protection, qui se manifestent par des actes concrets. Donc, la baïa, c'est le serment d'allégeance des tribus sahraouies au sultan marocain, ainsi que le paiement d'impôts au marzem, la consultation du sultan sur les affaires importantes, le recours à son arbitrage en cas de conflits intertribaux et la participation de contingents sahraouis aux armées du sultan. Donc, ces liens reconnus par la CIJ sur la base d'une analyse approfondie des documents historiques et juridiques attestent d'une réalité historique indéniable. Le Sahara n'était pas une entité isolée, mais intégrée à l'ensemble politique et spirituel du sultanat du Maroc. Et l'avis de la CIJ a également une portée politique considérable. En reconnaissant ces liens, elle a indirectement légitimé la négociation entre le Maroc et l'Espagne pour l'administration du Sahara, ce qui a abouti aux accords de Madrid du 14 novembre 1975. Ces accords, même s'ils ont été critiqués a posteriori par certains, mais ont constitué tout de même à l'époque une solution politique et juridique dans le contexte de la décolonisation. Ils ont été enregistrés auprès du secrétariat général de l'ONU. Et pour utiliser stratégiquement l'avis de la CIJ à l'avantage du Maroc, il est crucial de le présenter avec rigueur et honnêteté intellectuelle, et souvent en soulignant ce qu'il dit et ce qu'il ne dit pas, et en replaçant le débat juridique dans son contexte historique et politique. Il faut insister sur la réfutation du terra nullius, sur la reconnaissance des liens politiques et juridiques, et sur la légitimité de la négociation et des accords de Madrid. L'avis de la CIJ est un atout juridique majeur pour le Maroc, à condition de le manier avec expertise et stratégie dans les instances internationales et dans les débats publics.
Et sur le principe d'autodétermination qui est un pilier du droit international, comment le Maroc peut-il déjà concilier ce principe à son intégrité territoriale? Et comment également l'initiative permet-elle de dépasser les contradictions apparentes et de proposer une solution novatrice?
Excellente question, M. Tonkara. Je vous remercie. Donc, le droit à l'autodétermination est un principe fondamental du droit international, mais il est souvent brandi de manière simpliste et idéologique, notamment par les adversaires de l'intégrité territoriale du Maroc. Alors, il est crucial de rappeler que le droit international ne réduit pas l'autodétermination à la seule option de l'indépendance. La résolution 1514 de l'Assemblée générale de l'ONU, texte fondateur sur la décolonisation, mentionne clairement d'autres formes d'autodétermination. Je cite la libre association, l'intégration L'initiative d'autonomie proposée par le Maroc s'inscrit pleinement dans ce cadre du droit international. Elle n'est pas une concession, mais une modalité d'autodétermination mature et responsable qui prend en compte les réalités du terrain, les aspirations des populations sahraouies et les impératifs de stabilité régionale et de coopération internationale. L'autonomie telle que proposée par le Maroc, c'est le droit pour les Sahraouis de gérer eux-mêmes leurs affaires locales, de décider de leur développement économique et social et culturel, de préserver et de promouvoir leur culture et leur identité spécifique, tout en restant pleinement intégrés au sein du Royaume du Maroc sous sa souveraineté. C'est une véritable autodétermination en action qui garantit une large participation politique des populations sahraouies à la gestion de leurs affaires, une gestion démocratique et transparente des collectivités locales et une répartition équitable des richesses et des ressources. Cette autonomie renforcée s'exercerait dans le cadre d'une région Sahara marocain dotée d'un statut spécial, avec un parlement régional élu démocratiquement, un exécutif régional responsable devant ce parlement, des compétences élargies dans les domaines économiques, sociaux et culturels. L'État marocain conserverait ses compétences régaliennes, c'est-à-dire la défense, la sécurité, les affaires étrangères, la monnaie, la justice et la religion.
Tout à fait.
Et l'option de la dépendance, souvent présentée comme la seule forme légitime d'autodétermination par les séparatistes et leur soutien, est en réalité une impasse dans le contexte du Sahara. Mmh. Elle ignorerait, bien entendu, les liens historiques, culturels et humains profonds qui unissent les Sahraouis au reste du Maroc. Elle créerait aussi un micro-État fragile et non viable, vulnérable aux ingérences extérieures, aux convoitises régionales, un facteur d'instabilité également dans une région déjà très sensible. Elle ouvrirait la voie à tous les dangers, criminalité transnationale, terrorisme, flux migratoires incontrôlés. L'autonomie, au contraire, est une solution d'avenir pragmatique et réaliste qui permet de concilier le respect du droit à l'autodétermination avec les exigences de l'intégrité territoriale et de la stabilité régionale et qui offre aux populations sahraouies un avenir de paix, de prospérité, de dignité et d'épanouissement au sein de leur patrie, le Maroc. L'autonomie est conforme aux évolutions contemporaines du droit international, qui privilégie les solutions politiques négociées, les arrangements autonomes et la préservation de l'intégrité territoriale des États. Elle est soutenue par de nombreuses résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, qui la qualifie de sérieuse et crédible, et elle est la seule voie réaliste et durable pour une solution politique juste et mutuellement acceptable aux différents du Sahara marocain.
Et également, cette marocanité du Sahara reconnue au-delà des frontières africaines, même à l'international, quand même, la notion d'occupation est souvent utilisée par les adversaires du Maroc pour décrire sa présence au Sahara. Comment, par exemple, vous, de par votre connaissance approfondie de l'anthropologie et de la sociologie, vous permet-elle de réfuter catégoriquement cette thèse fallacieuse ?
Je vous remercie pour cette question, très importante d'ailleurs. Donc, la notion d'occupation est une construction purement idéologique. C'est une étiquette fallacieuse et propagandiste que certains cherchent à coller sur la présence légitime du Maroc au Sahara. Il est essentiel de rappeler ce que signifie réellement occupation en droit international. C'est le contrôle d'un territoire par une puissance étrangère en temps de guerre, en violation du droit international humanitaire et des conventions de Genève. Et rien de tout cela ne s'applique au Sahara marocain. Le Maroc n'a pas envahi le Sahara. Il n'y a pas eu de guerre entre le Maroc et une entité souveraine sur ce territoire. Le Maroc a récupéré pacifiquement un territoire qui lui était historiquement lié et dont l'administration avait été temporairement confiée à l'Espagne dans le contexte de la colonisation. La marche verte en novembre 1975 a été un acte pacifique de réappropriation territoriale soutenu par la Cour internationale de justice et conforme au droit international de l'époque. Mon approche anthropologique et sociologique déconstruit radicalement cette thèse de l'occupation. Je rappelle les travaux de Paul Rabinow et de Robert Montagne, ainsi que d'Auguste Bernard, qui ne sont pas de simples lectures académiques, ce sont des témoignages précieux sur la réalité humaine et sociale du Sahara marocain. Ils révèlent un continuum historique et culturel entre les populations du nord et du sud marocain. Ce ne sont pas des peuples distincts, mais une seule et même mosaïque humaine avec des liens familiaux qui traversent les frontières administratives, des réseaux tribaux qui s'étendent sur tout le territoire, des échanges commerciaux également séculaires et même culturels, une même langue, une même religion, même patrimoine spirituel et civilisationnel. Par exemple, l'étude des tribus Elgibat, qui sont présentées à la fois au Sahara et au Maroc du Nord, qui sont présentes au Sahara et au Maroc du Nord, montrent clairement cette continuité humaine et sociale. De même, l'analyse des Zaouyats, les Zaouyas et des confréries religieuses qui rayonnent sur l'ensemble du territoire marocain attestent des liens spirituels et culturels anciens et profonds. Donc, parler d'occupation est donc une absurdité historique et humaine, une négation de la réalité vécue par les populations sahraouies. Donc, leur attachement au Maroc, leur participation à la vie nationale, leur contribution à la construction du pays est indéniable.
Avant de revenir, bien évidemment, à vous, Monsieur Mnasser Arji, je rappelle donc que vous êtes expert en relations internationales. Nous allons suivre d'ailleurs cet élément sur le Sahara marocain avant de revenir, bien évidemment.
Avec les mutations géopolitiques récentes, le Sahara marocain s'impose comme un levier stratégique dans les relations entre le Maroc et ses partenaires, notamment l'Europe et l'Afrique. La consolidation des investissements et la reconnaissance internationale croissante du plan d'autonomie pourraient à terme transformer cette région en un pôle de stabilité et de prospérité. Le Sahara marocain est donc bien plus qu'un simple territoire, il incarne un projet national, une vision d'intégration régionale et un enjeu clé de la politique africaine du Maroc. C'est donc l'un des piliers fondamentaux de la souveraineté et de l'unité nationale du pays. Bien plus qu'un simple dossier diplomatique, la question du Sahara s'inscrit dans une longue trajectoire historique marquée par des liens indissociables entre le royaume et ses provinces sahariennes. Le 6 novembre 1975, la marche verte a marqué un moment clé. 350 000 Marocains ont avancé pacifiquement vers le Sahara pour réaffirmer l'appartenance de cette terre au royaume, un symbole de la réintégration de la région dans le giron national qui a mis fin à l'occupation espagnole. Aujourd'hui, de nombreuses nations reconnaissent la marocanité du Sahara. C'est le cas des États-Unis, par exemple. L'ouverture de consulats à Lyon et Dakhla par plusieurs pays africains, arabes et même sud-américains renforce cette tendance. Le plan marocain d'autonomie proposé en 2007 est aujourd'hui considéré comme la seule solution viable et réaliste aux différends régionaux. Il offre de manière indéniable aux populations sahraouies une gestion démocratique de leurs affaires sous souveraineté marocaine, conformément aux standards internationaux en matière d'autonomie territoriale.
De retour dans votre émission Destination Afrique, aujourd'hui le Maroc et son Sahara au cœur de cet entretien avec Nasser Arji, expert en relations internationales. Alors, Monsieur Arji, très rapidement, l'ONU joue un rôle central dans ce dossier concernant la marocanité du Sahara. Comment le Royaume du Maroc peut-il donc renforcer son dialogue avec cette organisation et obtenir un soutien plus affirmé pour une solution politique durable basée sur l'autonomie?
L'ONU est un acteur incontournable dans le dossier du Sahara et le Maroc doit intensifier et optimiser son dialogue avec cette organisation en adoptant une stratégie à la fois ferme, proactive et constructive. Il est important de rappeler que le Conseil de sécurité de l'ONU a clairement exprimé à plusieurs reprises son soutien à l'initiative d'autonomie marocaine. Des résolutions comme la résolution 2494, la résolution 2548, la résolution 2602, la résolution 2654, et la liste est très longue. Donc, elle salue toute l'initiative d'autonomie présentée par le Maroc en 2007 comme une solution sérieuse, crédible et réaliste. Et le Conseil de sécurité encourage les parties à parvenir à une solution politique basée sur une proposition, sur cette proposition, excusez-moi, et appelle les États membres à soutenir ces efforts. Et le langage de ces résolutions est significatif. Les termes utilisés ne sont pas anodins. Il témoigne d'une reconnaissance et de la pertinence du sérieux, du réalisme de l'approche marocaine et d'un désaveu implicite des options maximalistes et irréalistes prônées par d'autres parties. Le Maroc doit s'appuyer donc sur ce soutien du Conseil de sécurité pour renforcer sa position à l'ONU et pour isoler davantage les adversaires de son intégrité territoriale. Il faut décrypter attentivement les rapports du secrétaire général de l'ONU, les rapports de la MINURSO et les utiliser comme des outils de plaidoyer et de communication auprès des États membres et du secrétariat général. Il faut mettre en avant les progrès réalisés par le Maroc dans le développement économique et social du Sahara, les investissements massifs, on parle de près de 10 milliards de dollars réalisés comme projets structurants et mis en œuvre, c'est-à-dire on n'est plus dans l'imaginaire, on est dans la mise en œuvre, et donc ces améliorations concrètes des conditions de vie des populations sahraouies, le respect des droits humains et des libertés fondamentales, la mise en place d'institutions démocratiques et représentatives Il faut donc contrer activement la désinformation et la propagande diffusées par les adversaires du Maroc en apportant des informations factuelles et vérifiables, en déconstruisant les stéréotypes et les préjugés, en mettant en lumière les réalités du terrain. L'ONU, ce n'est pas un bloc monolithique. Il y a des nuances et des sensibilités différentes entre les États membres. Certains États comme les États-Unis, la France, l'Espagne, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Royaume-Uni, et la liste est très longue. De nombreux pays africains également, des pays arabes. Tous les pays arabes, je cite, de la Ligue arabe sont des alliés naturels du Maroc. Ils soutiennent explicitement ou implicitement l'initiative d'autonomie.
Tout à fait. Le droit international est souvent donc présenté comme un champ de bataille juridique complexe et parfois impitoyable. Quels sont, selon vous, les principaux atouts juridiques dont dispose le Maroc pour défendre sa position sur le plan international et contrer les arguments de ses adversaires ?
Le droit international est effectivement un champ de bataille crucial et le Maroc dispose d'une batterie d'atouts juridiques solides pour défendre sa position sur le Sahara et contrer les arguments fallacieux de ses adversaires, comme vous venez de le dire. Donc ces atouts peuvent être classés en plusieurs catégories. On a les atouts historiques et juridiques fondamentaux. Je rappelle l'uti possidetis juris, c'est un principe cardinal du droit international reconnu par la Cour internationale de justice et par la pratique des États, qui stipule que les frontières héritées de la colonisation sont intangibles et doivent être respectées au moment de l'indépendance. Or, au moment de l'indépendance du Maroc en 1956, le Sahara faisait partie intégrante du territoire marocain, même si son administration était exercée par l'Espagne. Mmh. Les accords de Madrid, signés en 1975, ont transféré l'administration de ce territoire au Maroc dans le cadre de ce principe de l'utis possidetis juris. Mmh. Donc remettre en cause ce principe, c'est remettre en cause la stabilité des frontières en Afrique.
Oui.
On a aussi l'avis consultatif de la CIJ en 1975. On a également donc, des atouts politiques et diplomatiques fondés sur le droit international. On a bien sûr la conformité de l'initiative d'autonomie au droit international. Qu'on a rappelé dans cette émission. On a aussi le soutien international croissant à l'initiative d'autonomie marocaine. On a également des atouts factuels et contextuels. Il y a la réalité du développement économique et social au Sahara sous l'administration marocaine.
De l'administration.
On a le contexte régional et international actuel qui est caractérisé par l'instabilité, le terrorisme et la criminalité transnationale. Donc tout cela plaide en faveur d'une solution politique rapide et durable aux différents du Sahara.
Tout à fait.
Donc en mobilisant ces atouts juridiques, politiques, factuels et contextuels de manière stratégique et coordonnée, le Maroc peut défendre avec force et conviction sa position sur le Sahara, sur la scène internationale, contrer effectivement les arguments de ses adversaires et avancer vers une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable.
Et mutuellement acceptable, et également tout cela dans l'optique, bien évidemment, de montrer encore une fois et de manière limpide, incontestable, la marocanité du Sahara et le Maroc sur son Sahara marocain. Nous avons fait le tour donc de ce sujet avec notre invité Nasser Hargi, donc éminent analyste, mais également aujourd'hui spécialiste des relations internationales. Merci encore à vous, monsieur Nasser Hargi, d'avoir répondu à cette invitation et nous avoir permis également de faire le tour de cette marocanité du Sahara en tant que guide dans cette émission de Destination Afrique.
Je tiens à vous remercier vraiment, monsieur Tounkara, chaleureusement pour cette invitation, pour l'opportunité qui m'a été donnée aujourd'hui donc, de rappeler une vérité historique. En tout cas, merci encore pour cet échange constructif.
Merci également à vous, monsieur Nasser Hargi. Rendez-vous donc est pris, chers amis, pour une autre destination dans votre émission Destination Afrique, pour promouvoir l'Afrique dans sa globalité, mais également notre cher royaume du Maroc à travers sa diversité, qui montre que l'Afrique est un seul et unique pays aujourd'hui qui se bat pour la reconnaissance africaine. Merci à vous et à la prochaine.